Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Bonjour amis auditrices et auditeurs, en ce moment où les droits humains semblent céder le pas aux droits de la force et à la guerre, je vous propose une interview de Jacques Fontaine, universitaire, membre de la Ligue des droits de l'homme et de l'AFPS, à propos de la situation au Proche-Orient et en Iran. Bonjour Jacques.
Bonjour à toutes et tous. Disons, développer une question pareille mériterait plusieurs émissions, mais nous n'en avons qu'une. Donc je vais essayer d'être synthétique. Et on va remonter à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors, 1945 très précisément, suite aux accords de Yalta. Roosevelt rentre sur un croiseur aux États-Unis, le croiseur s'appelle le Quincy, et il convoque l'autocrate d'Arabie Saoudite, qui a donné son nom à son pays d'ailleurs, Ibn Saoud, pour discuter du Moyen-Orient. C'est le roi, c'est le fondateur de l'Arabie Saoudite moderne, et le roi.
Alors, quelle est la teneur de ces accords ?
Alors, ces accords permettent à l'Arabie Saoudite d'être protégée par les États-Unis, et aux États-Unis d'avoir du pétrole bon marché venant d'Arabie Saoudite, dont les réserves sont immenses. Et un détail révélateur, la compagnie de pétrole saoudienne s'appelle Aramco, ce qui veut dire Arabian American Company. Et cet accord de Quincy marque le passage de relais entre l'impérialisme britannique et secondairement l'impérialisme français, qui jouait un rôle majeur au Moyen-Orient depuis un certain nombre de dizaines, voire plus d'une centaine d'années, et l'impérialisme états-unien, qui va avoir la main sur le Moyen-Orient. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'absolument fondamental. Alors, Israël est créé par l'ONU de manière totalement non statutaire, d'ailleurs, il faut quand même pas l'oublier, mais Israël est créé, et ça va être un facteur de guerre au Moyen-Orient, puisque depuis sa création, Israël n'a jamais été en paix avec ses voisins. Il n'y a pas eu de traité de paix signé ni avec le Liban, ni avec la Syrie, entre autres. Et je ne parle pas de l'Irak, ni de l'Iran, même si, sous le règne dictatorial du Shah d'Iran, les relations entre l'État israélien et l'Iran étaient bonnes.
Alors, pour tempérer ces relations, peut-être l'ONU ?
La création de l'ONU vient d'une volonté politique des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale pour essayer de réguler les relations internationales. Après l'échec de la SDN, qui avait été créée par Wilson en 1918. Et c'est évidemment une bonne idée. Le problème de l'ONU, c'est qu'il est en fait dirigé, je dirais pas par un quarteron de généraux, pour reprendre une expression célèbre, mais par un quinquette d'États qui sont les cinq membres permanents, États-Unis, Russie, Chine, France et Grande-Bretagne, sans aucune démocratie, qui défend les intérêts de ces cinq pays. C'est ça, malheureusement, l'ONU, et c'est le gros problème de l'ONU.
Actuellement, qui se fait ressentir ?
Actuellement, bien entendu, actuellement. D'autant plus qu'il y a ce que certains appellent le retour des empires. Moi, je dirais que les empires n'ont jamais cessé d'exister. Mais ils reprennent un nouveau type de fonctionnement impérial et antidémocratique à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Empire chinois, empire russe, empire états-unien. Le rôle de l'impérialisme états-unien va être fondamental. Il va y avoir toute une série de crises. Je citerai simplement la première crise avec l'Iran, qui sera résolue par la CIA, où le premier ministre iranien du Shah décide de nationaliser le pétrole, et où la CIA renverse le gouvernement légitime iranien pour permettre au Shah de continuer à tirer toutes les ficelles et d'imposer une dictature qui durera jusqu'à la révolution islamique, phagocytée par Roménie et les ayatollahs et les mollahs, contre le peuple iranien qui était en révolte, qui n'avait pas du tout, dont la majorité n'avait pas eu envie du tout d'une dictature noire après la dictature blanche, c'est évident.
Vous êtes en train de me dire que le peuple iranien s'est vu confisquer son pays ?
Les droits du peuple iranien, la vie du peuple iranien, ont été confisqués par une bande de religieux, Ayatollah Mollah, qui ont fait massacrer d'ailleurs une bonne partie des forces de gauche iranienne, que ce soit le Parti communiste Today ou les Fedayines du peuple, qui ont été massacrés. Et pour ça, la guerre contre l'Irak, qui a débuté en 1980-1988, a facilité le durcissement du pouvoir de Roménie.
Vous m'avez parlé de deux axes, un axe Arabie Saoudite, un axe israélien, par lesquels s'introduisent les États-Unis pour conforter leur empire sur ce territoire. L'Arabie Saoudite et Israël, ça va pas bien ensemble ?
L'Arabie Saoudite et Israël se supportent, mais ne sont pas alliés, et l'Arabie Saoudite n'a pas signé les accords d'Abraham, contrairement à certains pays comme les Émirats, le Bahreïn ou le Maroc. Elle n'a pas prévu de les signer à court terme, tant que la question palestinienne est dans la situation où elle est. Il n'empêche que les deux pays sont des pays capitalistes qui sont des relais de l'impérialisme états-unien. Maintenant, la nature de l'opposition iranienne à Israël, je ne sais pas jusqu'où elle va. Elle ne va certainement pas jusqu'à la volonté que l'on prête à l'Iran de détruire Israël avec des bombes atomiques. Les Iraniens ne sont pas fous. C'est un pouvoir qui est extrêmement structuré, qui est l'héritier de 500 années de pouvoir absolu, avec une royauté qui commence au XVIIe siècle et qui a jeté les bases d'un État moderne, il ne faut pas l'oublier. D'autre part, c'est un pays qui fait plus de 90 millions d'habitants, qui est grand comme trois fois la France, qui a des principaux producteurs de pétrole et de gaz naturel au monde. Hein, n'oublions pas, c'est pas l'Irak, hein. C'est vraiment une puissance régionale importante, basée sur une histoire, en particulier depuis 4 ou 5 siècles, de par même la structure du pouvoir qui reprend, en fait, un pouvoir extrêmement ancien. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier.
Alors, quels sont les objectifs de guerre avoués et non avoués des États-Unis et d'Israël ?
La stratégie d'Israël aujourd'hui, depuis que Netanyahou est au pouvoir avec les fascistes comme Ben-Gvir et Smotrich, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait dans les environs d'Israël, que des pays soumis à Israël, c'est le cas de l'Égypte aujourd'hui, c'est le cas de la Jordanie, ou des pays sans armée et qui ne menacent en rien l'expansionnisme israélien. Je rappelle qu'Israël est le seul État au monde à ne pas avoir défini ses frontières. Et que Israël, aujourd'hui, est de plus en plus arrogant avec les Palestiniens. Il y a eu le génocide de au moins 100 000 Gazaouis, peut-être nettement plus, mais ça, je ne sais pas si on le saura un jour. Et la volonté de refus total d'un État palestinien, pourtant prévu par l'ONU, lors du plan de partage de 1947. Donc la volonté israélienne, c'est: je ne veux plus d'ennemis dans mon précaré qui s'étend depuis la Libye jusqu'à l'Afghanistan. Donc, qui s'étend depuis l'Éthiopie ou la Somalie jusqu'au Kazakhstan, en passant par l'Azerbaïdjan. Voilà le précaré israélien. Donc, je ne veux pas d'ennemis, je ne veux pas, même si la menace iranienne est d'abord une menace verbale.
D'où vient cet antagonisme avec l'Iran ?
L'antagonisme avec l'Iran vient du soutien verbal de l'Iran aux Palestiniens et de la volonté de l'Iran d'être une puissance régionale, de devenir la première puissance régionale du Proche et du Moyen-Orient.
Alors là, actuellement, donc il y a un attelage Netanyahou-Trump. Qui dirige l'attelage ?
Je n'ai pas parlé des États-Unis, qui faisait partie de votre précédente question. Les États-Unis, eux, veulent dominer le Proche-Orient parce que le Proche-Orient, enfin, les États-Unis de Trump sont encore à ce niveau-là, vont beaucoup plus loin que les autres présidents républicains ou démocrates des États-Unis, parce qu'ils veulent absolument dominer le Moyen-Orient, parce qu'il y a les premières réserves de pétrole au monde, et que la transition énergétique, les énergies vertes, ça n'intéresse pas Trump, qui, ne l'oublions pas, est d'abord un marchand de maison. Mais c'est ça, Trump.
Trump n'a pas hésité à employer des termes que certains qualifient de génocidaires.
Oui, oui, oui. Si on écoutait Trump, il faut analyser sa politique plus que on est obligé de l'écouter, bien entendu. Ben, c'est la première puissance mondiale, mais on a là une façon de faire de la politique qui est l'équivalent des régimes les plus réactionnaires du XXe siècle.
Et alors, cette stratégie de domination, elle a ses limites. Et est-ce qu'on peut parler de puissance des faibles ?
Oui, elle a, bien sûr, elle a ses limites. Et, mais ce sur quoi je voudrais revenir aussi, c'est l'origine de cette guerre qui a commencé le 28 février. Le New York Times a donné des informations extrêmement précises et précieuses au début du mois d'avril. Netanyahu a présenté un plan en 4 points pour éliminer l'Iran. Trump a dit « c'est pas mal ». Dans ce plan en 4 points, il y avait l'élimination des sites nucléaires, il y avait l'élimination de la direction de l'Iran, il y avait, et à partir de là, le souhait d'une révolte iranienne qui éliminerait le pouvoir des mollahs, et où on pourrait mettre, par exemple, le fils du Shah d'Iran. C'est la proposition de Netanyahu à Trump, tout ça. Hein. C'est le New York Times de début avril que je cite. Bon, qui étaient des trucs complètement irréalistes. Et Trump a dit, ben oui, pourquoi pas. Et parmi son entourage, certains ont été critiques, je pense en particulier au vice-président, J.J. Vance, qui a dit qu'il était contre la guerre. Mais personne ne s'est opposé fermement à Trump.
Comment vous l'expliquez ?
Je ne suis pas dans les arcanes de la politique états-unienne. Ce qui me semble évident, c'est qu'on est sur un pouvoir extrêmement vertical et que quand le chef a parlé, les sous-chefs s'alignent. On a là une structure de pouvoir, oui, verticale.
Structure de pouvoir verticale qui ne peut pas s'arrêter puisque la guerre le justifie.
Qui un jour sera obligé de s'arrêter, mais quand ? Parce que il s'auto-justifie en permanence. Donc le déclenchement de la guerre s'est fait tout simplement parce que les services israéliens, qui sont très performants, étaient au courant d'une réunion de la haute hiérarchie iranienne autour de Ramenei, donc le guide de la révolution. Ils ont appris ça, et 2 jours après, Trump a donné son accord, et les bombardements ont commencé, et Ramenei a été éliminé. Le problème, c'est que derrière lui, il y avait 10 ou 15 mollahs qui pouvaient prendre, ou ayatollahs plutôt, qui pouvaient prendre sa place. Et c'est en fait son propre fils, qui était son premier conseiller, qui a pris sa place. Voilà, donc le pouvoir n'a pas été réellement affaibli. Un homme est mort, bon, il avait 80 et quelques années, ça devait lui arriver un jour. Il aurait pu avoir une crise cardiaque 8 jours plus tard, ça n'aura rien changé. Le pouvoir est un pouvoir, en fait, extrêmement stable. Et le résultat, c'est que, contrairement aux prévisions de Netanyahou et à David Trump, ça n'a pas provoqué de révolution. Au contraire, l'Iran étant un pays où le nationalisme est extrêmement fort, le pouvoir a été conforté, malgré sa violence, malgré la répression du mois de janvier, qui a fait quelques dizaines de milliers de morts, faut pas l'oublier. Le pouvoir est conforté par la guerre. Et Netanyahou et Trump, quoi qu'ils en disent, ont conforté ce pouvoir, ce qui est quand même paradoxal.
Est-ce que finalement l'objectif de ces chefs de guerre, c'est pas justement de conserver les mêmes ennemis pour conserver leur pouvoir ?
Je pense que c'est un élément important dans la réflexion que nous devons avoir sur les buts de cette guerre.
Jacques, est-ce que vous auriez un dernier mot à rajouter ?
Deux mots. La problématique du détroit d'Ormuz est une problématique qui peut nous emmener je ne sais pas où. Parce que là, il n'y a plus seulement 2 ou 3 acteurs, il y en a beaucoup plus. Et parmi les acteurs, il y a la Chine, qui reçoit beaucoup de pétrole iranien. Alors, la Chine a des réserves stratégiques pour plusieurs mois. Mais à terme, il va bien falloir que ces deux voyous, que sont le régime iranien et le régime états-unien, qui bafoue le droit international, parce qu'il est hors de question de faire payer un péage dans un détroit des eaux internationales, c'est contraire à toute la loi internationale, et le blocage d'un détroit est également contraire à toutes les lois internationales, et pour répondre au blocage iranien, Trump fait un blocage états-unien. C'est 2 voyous qui se confortent l'un l'autre, c'est quand même extraordinaire, mais un jour la Chine viendra. Et je ne sais pas comment ça peut se passer, ça peut bien se passer, si les négociations qui sont en cours, permettent d'avancer, en particulier sur la question du nucléaire, ça se débloquera, mais je n'en suis pas certain.
Je vous remercie.
Amis auditrices, amis auditeurs, souhaitant que finisse cet état de guerre et que le peuple concerné puisse enfin jouir pleinement de leurs droits, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission dans un mois.